Je sais combien la vie est fragile. Il suffit d'une seconde d'inattention, d'une erreur d'appréciation au volant, d'une bagarre qui tourne mal. Et au bout du compte, la mort accidentelle qui survient. Au travail de deuil s'ajoute alors le terrible sentiment de culpabilité, sans parler de la pression de la machine judiciaire. Comment surmonte-t-on une telle épreuve ? Comment peut-on se reconstruire quand on a une mort sur la conscience ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Nicole. La vie de cette femme a basculé devant un passage piéton, un jour de juin, au volant de son bus. Je suis Olivier Delacroix, bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ».
Vivre avec une mort sur la conscience, c'est une épreuve à supporter pour de nombreux conducteurs impliqués dans un accident de la route. C'est ce qui est arrivé à Nicole, une dame ordinaire, un jour ordinaire, pendant son service. Son destin a basculé en une seconde. Cette mère de famille sans histoire s'est retrouvée sans vraiment comprendre, mise en examen pour homicide involontaire. J'ai rendez-vous avec cette jeune retraitée. Il y a 3 ans encore, elle était chauffeur de bus, respectée par ses collègues. Nicole, c'est 29 ans de carrière derrière un volant et sans un accrochage. Ce 26 juin 2009, elle finit tranquillement son service, le bus est vide. Soudain, vers 16h, sa vie bascule. Avec son bus, elle cause la mort d'une vieille dame qui voulait traverser la rue. Nicole refait avec moi ce trajet fatidique, celui qu'elle faisait tous les jours, avec son bus.
On est comme ça, hein, même avec le bus, hein, on ne peut pas aller plus vite. Hein. Voilà, on arrive pratiquement sur l'accident. Donc j'arrive. Il y avait des personnes qui attendaient le bus, mais sur une autre ligne.
Oui.
Et sur le petit parking, il y avait une voiture blanche, là, à la hauteur du réverbère.
D'accord.
Donc moi je fais ça, comme ça. Et la dame a dû sortir de là. Voilà, j'entends clac.
Mais vous entendez clac,
clac. Un claquement sec. J'ai mis les warnings, je suis restée, sur place. J'ai mis le frein de parking, je suis partie, et puis c'est là que j'ai vu la dame, voilà. Donc la dame était là.
Et la dame était au milieu de la route, en fait.
Elle était là, oui, comme d'accord. Ça, là. Ah, ouais. C'était pas beau à voir, quoi. J'étais...
3 ans après, cette...
Ah, c'est toujours aussi vif. Hein.
C'est toujours aussi vif.
Ah, ouais, ouais, ouais. Là, ouais. Comme ça, sur les lieux, oui.
Ouais. De retour sur les lieux de l'accident, Nicole n'est pas du tout à l'aise et je le sens bien. Cet accident s'est déroulé sans témoin, personne n'a rien vu. Même Nicole ne sait pas bien ce qui a pu se passer. Elle a seulement entendu le bruit du choc. Les faits précis sont donc difficiles à établir clairement. Forcément, ses doutes taraudent Nicole. Donc vous voyez le corps d'une petite dame
qui était en position fœtale.
Alors où se trouvait-elle par rapport
au milieu du bus. Au milieu du bus. Pas à l'avant, pas à l'arrière, sur le milieu du bus. Donc il n'y avait pas de témoin. Mm-hmm. Quand je suis descendue, la dame était consciente.
Elle avait les yeux donc ouverts.
Oui, elle montrait qu'elle avait mal sur le côté.
Ouais.
Et les pompiers sont arrivés très vite. Ils l'ont médicalisée 1 heure sur place.
Ouais.
Et après, ils l'ont emmenée vers l'hôpital de Maubeuge. Elle était polytraumatisée. Moi, je l'ai appris après.
Ouais.
Mais elle avait quand même les côtes de cassé, le col du fémur. Elle avait... je pense que c'est une fracture du crâne, mais je ne saurais pas dire.
Quel sentiment vous habite tout ce temps au bord de la route lorsque cette dame est soignée dans la camionnette ?
On est choqué, oui, c'est sûr. Mais on est prêt à faire n'importe quoi pour que cette dame se relève. C'est indescriptible. C'est indescriptible parce que on est impuissant. On est impuissant. Mmh. Mais cette dame-là, là où elle a été, où j'ai eu l'accident, elle était connue.
D'accord.
Elle a été très connue, donc elle était aimée de tout le monde. Mmh. Puis, en plus, c'est une mamie, hein, on va dire.
Ouais.
Une très gentille dame, quoi. Tout le monde le disait, quoi. Je me suis même fait insulter par une personne qui passait là en disant que j'étais un assassin, quoi.
Ouais.
Parce que c'était cette dame-là qu'il connaissait.
À quel moment apprenez-vous son décès ?
Le SMUR s'en va avec les pompiers vers Maubeuge.
Oui.
Les constatations étant faites, les policiers me disent « Bon, ben, vous pouvez repartir avec vos collègues. »
Oui.
J'ouvre la portière de la voiture. Le policier vient dire « La dame est décédée, vous êtes en garde à vue. » Bon, ben, je suis en garde à vue. Et je suis reparti avec la police au commissariat de Maubeuge.
Est-ce que vous aviez le sentiment tout de suite d'avoir... commis une erreur quelconque
Quand on a un accrochage comme ça, ouais, on culpabilise, on se dit, bah, on a fait quelque chose qui ne fallait pas, on n'a peut-être pas été assez vigilant, on passe des centaines de fois à cette place-là.
Vous arrivez au commissariat de police,
oui.
Et à partir de ce moment-là... comment ça se passe pour vous ?
Il y a, je présume que c'est un inspecteur de police avec un autre de ses collègues qui me demande de relater les faits. Donc c'est ce que je fais. Après, on vous demande d'enlever les bagues, d'enlever les lacets si vous en avez. Comme je ne suis une femme, le soutien-gorge. C'est plutôt dégradant. Oui. C'est une dame qui vient pour...
Ouais. On est gentil avec vous, quand même.
Ah, tout à fait. Oui. Mmh. Ça, je ne dirais pas. Donc, on prend les empreintes, on vous photographie de face, de profil. Puis après, on vous dit, ben, on viendra vous rechercher, on vous met en cellule, puis vous attendez. Alors là, vous avez le temps de réfléchir. Revoir cette dame-là, et je la revois encore aujourd'hui, allongée le long du bus... C'est ça qui... Comment je vais dire qui est le plus pénible, ouais. Mmh. Ah ouais. Ah ouais.
Les gardes à vue et l'interrogatoire de Nicole se poursuivent normalement. Dans la foulée, elle est transférée au tribunal où elle se retrouve face à une substitut du procureur dont Nicole garde un souvenir plutôt amer.
Donc, elle me pose des questions, toujours à charge, jamais à décharge. Toujours, vous savez, marteler, oui, mais vous êtes une professionnelle de la route, vous êtes ceci, vous êtes cela. Je me souviens d'une attitude vraiment froide, des yeux, je dirais pas haineux, parce que ce serait exagéré, mais c'est vraiment quelqu'un de froid.
Ouais. Mais vous avez l'impression qu'à ce moment-là, elle essaie de vous faire craquer, cette procureure. Elle n'est pas persuadée de votre non-responsabilité dans cet accident.
Pas du tout.
Non.
Non, non.
Vous êtes. En fait, c'est le contraire.
Ah oui, tout à fait.
Pour, vous
pour moi, c'est quelqu'un qui était là pour, vulgairement parlant, charger la mule. Hein.
D'accord, carrément.
Ah oui. Moi, je le pense. Je le pense encore aujourd'hui. Mm-hmm. Je suis sortie de là. Je n'étais vraiment, vraiment pas bien.
Déjà rongée par la culpabilité, Nicole est mise en examen. 8 jours plus tard, elle doit même rendre son permis de conduire et se plier à un contrôle judiciaire. Elle est obligée de pointer 2 fois par semaine au commissariat de police. Grégory et Valérie sont les 2 enfants de Nicole. À l'époque, ils ont beaucoup de mal à comprendre ce qui arrive à leur mère. Leur impression, c'est que la justice, tout à coup, se déchaîne contre elle.
Gros sentiment de haine, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment... je comprenais pas, quoi. On se pose des questions, mais pourquoi ? Et en plus, on n'a pas le... Il y a une décision et on n'a pas l'explication de la décision. Du coup, on est encore plus dans le flou. Et puis, après, ça fait un enchaînement, quoi. Le permis, le contrôle judiciaire, on se pose plein de questions en se demandant, mais comment ça va finir ?
Toutes ces décisions-là, Nicole, vous les avez vécues comment ? C'est comme si vous étiez coupable de quelque chose, donc.
Bah oui, moi, je vous ai dit, on se prend pour un criminel de la route.
D'accord.
Pour un délinquant, d'accord. Un criminel de la route. Ah oui, ça, je l'ai senti comme ça. Ah oui.
Bon, il y a eu 3 années donc, qui sont passées. Pendant ces 3 années, comment est-ce que vous sentiez votre mère ?
Bah déjà, elle est devenue, depuis ce moment-là, devenue insomniaque. Mm-hmm. Donc, elle n'arrive pas à dormir, elle dort 2-3 heures par nuit. Donc, un peu. Puis dans l'attente du jugement, parce que.
Malgré
3 ans, c'est quand même. Quand on est dans l'attente d'un jugement, c'est difficile.
Bien sûr.
En se mettant à la place de maman, on se dit, bah, c'est invivable, quoi.
Vous redoutiez ce procès ? Le verdict de ce procès ?
Ben oui, parce que vu la procédure de 3 ans, vu.
Le traitement
le
spécial.
Oui, on s'est dit, ça va être quoi la tournure, ouais. La fin
on
du.
Avait peur, ouais.
On avait peur quand même, quoi. Donc,
ça vous a traversé la tête qu'elle puisse faire de la prison à cause de ça ?
Oui. On avait vraiment une peur.
Et ça, c'est quelque chose dont vous parliez ensemble ou vous évitiez de...
Non, ça, on n'en parlait pas, ça.
Ouais. Et vous, Nicole, vous aviez peur du verdict ?
Oui, parce qu'il y a une peine minimale, une peine maximale. Après, il y a l'aspect pécunier aussi, parce que l'amende pouvait aller jusqu'à 400 000 euros.
Ouais. Et 5 ans
de prison ferme.
En attendant son procès, Nicole récupère son permis, voit son contrôle judiciaire levé et reprend donc son travail de chauffeur. Elle est affectée sur la même ligne de bus. Le rendez-vous avec la justice a finalement lieu 3 ans après l'accident. Et durant le procès, Nicole assiste incrédule à un coup de théâtre qui va complètement modifier la teneur des débats et lui redonner de l'espoir. À la barre, le fils de la victime la dédouane.
Elle a dit simplement, je ne voudrais pas que Madame Rive ait des problèmes avec la justice par rapport à la mort de ma mère. Ben, croyez-moi, il faut avoir les nerfs solides pour dire ça. Et puis, franchement, c'est... Il faut le prendre avec... être humble par rapport à ça, quoi. Ça fait chaud au cœur d'entendre le fils de cette dame dire « J'ai un manque, mais je ne vous en veux pas. » Voilà.
Vous avez été relaxé au bout de cette audience. Quel sentiment vous avez eu à l'énoncé du verdict ?
Je m'y attendais pas parce qu'avec le réquisitoire du procureur de la République qui montrait la faute professionnelle, l'homicide involontaire.
Mais par imprudence.
Ouais.
En fait, le procureur demandait 5 ans. Hein,
oui, 5 ans
c'est
avec
5 ans avec
sursis.
Oui. D'accord.
Oui. J'ai attendu 2 heures pour l'énoncé du... Donc, je suis sortie à 21h du tribunal en étant relaxée. Mais c'est pas une joie en soi, c'est pas une fin en soi, parce que on a toujours la présence de cette dame décédée.
Vous vous sentez toujours pleinement responsable de la mort de cette... femme.
Oui, c'est quand même moi qui l'ai conduit à la mort. Hein. C'est moi responsable, voilà.
Vous pensez que vous aurez la mort de cette femme toute votre vie,
avec
sur
moi,
la conscience ?
Ouais. Ouais. Ah oui, ça, franchement, oui. Ça,
c'est quelque chose que vous allez...
Que je traînerai jusqu'au bout. Ah oui. Ça, c'est sûr, oui.
Ouais. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ?
Comme je vous disais, je l'ai avec moi, je vis avec, et puis je n'en parle pas ni à mon mari, ni à mes enfants. Je l'ai avec moi. Un collègue, la semaine dernière, quand j'étais à l'entreprise, il me dit « Alors, comment ça va ?» Puis là, je dis « Je vis avec, c'est tout. » Voilà. C'est simplement ça. Simplement ça.
Vos collègues ont été d'une grande importance dans...
Ah, tout à fait, oui.
Dans votre équilibre, quoi. En tout cas, ils vous ont permis de vous maintenir la tête hors de l'eau.
Hors de l'eau, oui. Oui, oui. Mmh. Ça, là-dessus, c'est sûr. Les transports, comme je vous le disais, c'est une grande famille. Hein. Quand il arrive un coup dur, paf, les gens viennent... c'est comme un nid d'abeilles, hein. Hop, tous sont là, on téléphone, tout ça. Mmh. Mmh. Mais c'est quelque chose de dur à supporter.
Si vous deviez en fait penser aux gens qui vous ont aidé à supporter, à qui vous pensez, à quelle personne vous pensez ?
Ben, je pense à monsieur, parce qu'il est resté humble d'un bout à l'autre de la procédure. Mm-hmm. Ça, c'est quelqu'un de très bien. Puis, je vais vous dire, mes enfants, tout ça, ça a fait que... Heureusement qu'on est quand même solidaires dans la famille.
À travers cette histoire, j'ai senti que le sentiment de culpabilité était encore très présent chez Nicole. À l'évidence, toutes les explications rationnelles du monde ne pourront le faire disparaître. Et que serait devenu Nicole si le fils de la victime n'avait pas témoigné de façon aussi sincère et courageuse à l'audience en la disculpant ? Ce témoignage lui a redonné l'estime d'elle-même. Il a surtout modifié l'image que certains pouvaient se faire d'elle après l'accident. En quittant Nicole, je sais que c'est le pardon du fils de la victime qui aura largement contribué à soulager sa conscience. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rascle, Clémence Olivier et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.